Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Nous nous penchons sur le bien-être au boulot. Stéphane Valère a fondé Blixo, une start-up qui aide entreprises et salariés à mieux travailler. C'est un baromètre social qui permet d'évaluer la qualité de vie au travail. Des données, on le sait, souvent abstraites et subjectives. Alors comment fonctionne cet outil? Réponse tout de suite. Bonjour Stéphane Valère.
Bonjour.
Alors, donc, vous avez fondé Blixo, votre entreprise, il y a de cela quelques mois, c'est tout récent.
Oui.
Qu'est-ce que veut dire Blixo?
Rien, c'est juste joli et international.
D'accord, bah merci d'être venu. Des salariés heureux et épanouis. Alors, c'est assurément un plus pour le salarié et l'entreprise, on est d'accord, c'est indéniable. Mais ce n'est pas toujours si simple. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux au travail? Alors, être heureux avec soi-même, bien évidemment, mais être heureux dans l'entreprise, avec les collègues, avec le boss, qu'est-ce que ça veut dire?
Oula, grosse question.
Oui, vous avez 4 heures.
Moi, je dirais, être heureux au travail, ça veut dire être bien dans ses baskets au boulot.
Ouais.
Pour reprendre un terme plus commun. Et être bien dans ses baskets, bah, c'est différent pour vous, pour moi et pour vous. On a tous des aspirations différentes, dans des contextes différents. Et être heureux dans son travail, finalement, ça dépend de dizaines de facteurs. C'est ça qui est compliqué. En fait, ça va dépendre de la relation que j'ai avec des collègues. Tiens, j'ai plaisir à aller courir avec Michel le jeudi. Ça va dépendre de l'image qu'a mon entreprise à l'extérieur. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui les gens qui travaillent chez Monsanto soient très agréables pour eux de parler de leur travail à l'extérieur. Ça dépend évidemment de la relation qu'on a avec son manager, ça dépend du sentiment de justice qu'on éprouve quant à la rémunération dans l'entreprise, etc., etc. Et finalement, c'est cet ensemble d'innombrables facteurs qui nous impactent différemment les uns les autres, qui fait que on supprime les frustrations. Et comment on supprime les frustrations? Bah, on se sent bien dans son travail. C'est juste ça, en fait.
C'est simple quand vous le dites.
Oui, c'est simple. Alors, les yaka faucons, ça ne marche pas.
Oui, mais bien sûr. Alors, vous, ce que vous proposez, c'est de mettre des chiffres là-dessus,
oui,
d'évaluer justement ce bien-être au travail. Alors, on va vous demander tout simplement, mais comment, de quelle façon?
En fait, ce n'est pas exactement d'évaluer le bien-être au travail, l'objectif de Blixo. L'objectif de Blixo, c'est de créer un cercle vertueux dans lequel les différentes parties prenantes... Alors, on a quoi? On a les salariés, les managers, les RH... et les dirigeants, voire même, pour certaines entreprises, les actionnaires. Et ces quatre, ces différentes parties prenantes ont des objectifs qui sont différents, parfois même divergents, parfois même antagonistes.
Ouais, ouais.
Et finalement, l'idée de Blixo, c'est de réunir tous ces parties prenantes, tous ces objectifs, dans une même boucle vertueuse, puisque... on en avait tous l'intuition, mais maintenant c'est prouvé par de grandes études internationales. Si je suis bien dans mes baskets, je suis engagé dans mon travail. Et si je suis engagé dans mon travail, le travail est meilleur. Donc les équipes engagées produisent plus de rentabilité, plus d'efficacité.
Ça, on en est convaincu, bien sûr.
Mais c'est prouvé maintenant.
Mais comment faire? Enfin voilà, c'est ça la question.
Mais en fait, l'idée de Blixo, c'est... Pour comment faire, il faut poser un bon diagnostic.
Ouais. Un audit, c'est ça.
C'est ça, c'est un audit avec des pistes d'action, des priorités. Donc, je vais prendre une image qui est peut-être un peu triviale, mais les médecins, il y a 200 ans, ils sentaient l'urine, ils regardaient votre teint et ils voyaient si vous transpiriez.
Ouais.
Voilà, ils sentaient votre haleine. Et avec ça, ils vous disaient, oh là là, il faut absolument que vous preniez de... Si l'aspirine avait existé, ils auraient dit, vous prenez de l'aspirine parce que vous êtes en train de vous gripper. Mais en fait, non, c'était une gastro. Sauf qu'ils n'avaient pas l'info.
Ouais,
donc,
ouais.
Pour pouvoir choisir les bonnes pistes, il faut avoir la bonne info. Nous, ce qu'on fait avec Blixo, c'est qu'on apporte la prise de sang, l'IRM, les radios, etc. Donc, finalement, comme on analyse en temps réel, on décortique tous les leviers de l'engagement, on donne la possibilité aux différentes parties prenantes d'améliorer les choses, parce qu'elles savent ce qui dysfonctionne. Et finalement, le fait de ne pas être heureux... Alors, heureux,
on met beaucoup de choses derrière.
Je ne suis pas très à l'aise avec ce mot, parce qu'en plus, le bonheur, le heureux en français, c'est très dans la sphère privée. Donc, c'est pour ça que moi, j'emploie être bien dans ses baskets, ou être bien au boulot, ou qualité de vie au travail. Mais finalement, Je peux me sentir pas bien dans mon boulot, frustré, uniquement parce que, j'ai pas compris la stratégie de la boîte. Mmh. Et donc, si j'ai pas l'info, en tant que manager ou en tant que DRH, je vais pas pouvoir expliquer mieux la stratégie, alors que j'ai l'impression d'avoir déjà expliqué la stratégie. Vous voyez, donc il faut poser le diagnostic. Hein, ouais. Et le diagnostic, il est compliqué à poser parce que ça dépend, ce que je disais tout à l'heure, de dizaines de facteurs. Et que les gens n'ont pas la compétence, parce qu'on ne leur a pas donné, parce qu'ils ne sont pas DRH, ils n'ont pas la compétence ni de s'exprimer sur ces facteurs, donc de décortiquer, de poser la bonne grille d'analyse sur leur vécu, ni d'interroger leurs collaborateurs, quand ils sont managers, sur cette grille d'analyse. Et donc, en fait, finalement, c'est un outil de diagnostic assez simple qui apporte des pistes derrière de...
Alors justement, parce que vous parlez d'outils, oui. C'est-à-dire que c'est des questions, on répond par oui, non, oui. On coche des croix, comment ça marche?
Ouais, concrètement, en fait, on interroge les salariés ou les agents chaque semaine, ou chaque quinzaine, ou chaque mois, ou chaque trimestre, ça dépend des fréquences que vous choisissez. Les gens répondent, si c'est par semaine, il y a 3-4 questions, ils répondent, ça leur prend une minute, donc sur leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone, enfin ce qu'ils veulent. C'est digital, évidemment. On récupère les données. Donc la question, elle part de chez nous. On est tiers de confiance. La question, elle part de chez nous. On récupère les réponses. On les anonymise. On les agrège. On les triture dans un algorithme. Ouais, ouais. Et on les restitue sous forme de cockpit, on dit dashboard dans les startups, de cockpit, de tableau de bord. Ouais. Très visuels, très analytiques, qui permettent aux utilisateurs de comprendre en un clin d'œil la situation et son évolution. Parce que finalement, c'est l'évolution qui compte, c'est pas la photographie, nous, c'est du temps réel.
C'est ça. Donc, et vous amenez des solutions, des propositions. Vous en discutez ensuite avec le staff et avec les salariés. Comment
vous
procédez ?
Nous, on n'en discute pas parce que c'est digital et l'objectif d'une start-up, c'est d'être massif. Donc, on ne pourrait pas discuter avec chacun de nos clients. On peut mettre en place... cette solution de conseil, mais qui va au-delà, finalement, de l'existence même de la start-up. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un diagnostic, ce que je vous disais, et on soulève des alertes et on pointe des priorités. Mmh. Donc, on dit à un manager, qui peut être un manager de 10 personnes ou un manager de 1000 personnes, on lui dit, regarde, ton équipe, elle fonctionne plutôt pas mal, ça pourrait monter. Vous êtes très très bon sur la solidarité entre vous. Il y a vraiment, les gens se filent des coups de main, ça marche très bien. Il y a une très bonne relation avec le management, il y a la bienveillance, il n'y a aucun problème sur ça et ça, mais cultivez cette notion de solidarité qui est forte chez vous. Par contre, regarde, il faut absolument que tu t'intéresses au sentiment d'autonomie. Les gens n'ont pas la sensation d'être autonomes dans leur travail. Donc, et de dire ça déjà, on pointe, si vous voulez, le levier du progrès.
D'accord, voilà. Ok. Vous donnez des pistes de réflexion, de travail. Et votre job s'arrête là ou après, est-ce que vous proposez un accompagnement?
Alors en fait, l'appli, le Blixo, dans quelques mois, apportera des solutions.
C'est en cours.
Voilà.
D'accord.
C'est en cours de développement. Aujourd'hui, non, mais parce qu'aujourd'hui, la start-up a des clients. Mais ça, c'est toute cette partie-là est en cours de développement.
Stéphane, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aujourd'hui, un salarié épanoui dans son travail? Alors, on sait, on l'a dit, c'est basé sur plusieurs facteurs. On voit apparaître beaucoup de cas, on parle beaucoup de cas de burn-out, voire de bore-out, c'est-à-dire qu'on n'en a pas assez d'activité pour s'occuper à plein temps la journée. Et ce n'est pas facile non plus d'être au travail sans avoir de mission, de tâche à accomplir. Quels sont, j'allais dire, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, les différents problèmes que vous avez pu identifier ou des choses qui sont récurrentes?
C'est difficile de
la communication, déjà.
Oui, en fait, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Il y a ma relation avec le manager, ma relation avec mes collègues, mon sentiment d'autonomie, le sentiment d'équité... il y a la compréhension de la stratégie, le sens que l'on donne à son travail, est-ce que mon travail sert à quelque chose dans l'organisation, est-ce que j'ai les bonnes conditions de travail, votre question elle est très 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 large, et c'est ce qui fait la complexité du sujet en fait, si vous voulez, nous on existe parce que finalement le sujet de l'engagement dépend de dizaines de facteurs et ces informations ne sont pas récupérables simplement parce que la seule question que les gens se posent le matin c'est salut ça va et tout le monde répond en cœur ça va, bien et toi, donc on n'avance pas avec ça. Finalement il faudrait, si on voulait bien faire les choses, il faudrait Vous savez, les grandes entreprises, elles ont des baromètres.
Ouais.
Voilà, des baromètres annuels, où c'est tellement compliqué qu'il y en a qui font ça tous les 2 ans ou tous les 2 ans et demi. C'est des trucs énormes, hein, parce que il faut des mois pour poser les questions à tout le monde,
pour
récupérer, analyser, etc. Nous, on fait ça, on fait la même chose, en fait, mais en temps réel, de façon ultra simple. C'est ultra simple, il n'y a pas d'installation, il n'y a rien du tout, ultra simple. Et ça, aussi bien pour les très grandes entreprises que pour les toutes petites PME, à des prix défiant toute concurrence. Donc, c'est ça le plus de Blixo. En fait.
Alors, parfois, les salariés n'adhèrent pas au projet d'entreprise. Hein. Il ne suffit pas de proposer des cafés philosophiques, par exemple, ou d'autres choses un petit peu fun pour que ça fonctionne. Le malaise peut être profond au sein de l'entreprise. Est-ce que ça aussi, vous arrivez à l'identifier, à le mesurer? Vous avez les moyens de le faire.
Oui, mais en fait, le malaise profond, je suis peut-être pas très concret dans la réponse que je vous apporte, mais c'est une maladie, entre guillemets, parce qu'un malaise, on pourrait dire que le système est malade. Hein, c'est systémique, une entreprise. Hein, donc, le système malade, il a des causes. Quoi. Il y a des microbes, il y a des virus. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre d'où ça vient, en fait.
C'est ça le plus difficile,
voilà,
bien sûr.
Et c'est pas toujours... Nous, c'est ça ce qu'on fait, si vous voulez. On pose un diagnostic clair. Si les gens ne comprennent pas... je reviens sur votre question, parce qu'elle était très riche. Quand on s'intéresse à la stratégie de l'entreprise, il y a 3 choses, par exemple. Il y a est-ce que mon entreprise a une stratégie claire ?
Ouais.
Est-ce que la stratégie m'est bien communiquée ?
Mm-hmm.
Et est-ce que j'y adhère ? C'est 3 choses vraiment différentes.
Tout à fait.
Et le patron d'entreprise, il a évidemment, c'est quelqu'un d'intelligent, ils sont tous intelligents, ils ont tous envie de bien faire. Les patrons, les managers, les salariés.
Mm-hmm.
Le patron, évidemment, il explique sa stratégie. Mais il l'a fait. Il l'a fait le mieux qu'il pouvait. Et évidemment, il a une stratégie. Tous les patrons ont une stratégie d'entreprise. Maintenant, les collaborateurs n'ont pas forcément l'impression qu'on leur a expliqué, parce qu'ils ne l'ont pas forcément entendu, parce que c'est compliqué. C'est pas parce qu'on dit les choses que les autres entendent.
De faire passer le message, bien sûr.
Il y a des émetteurs, des récepteurs.
Ouais.
Ils n'y adhèrent pas forcément. Et ils ne sont pas convaincus que l'entreprise a une stratégie. Ils sont un peu déboussolés. Ces 3 choses qui sont très différentes peuvent générer derrière des dysfonctionnements qui rendent le système complètement malade, qui vont après dérégler des relations entre pairs, des relations hiérarchiques entre un manager. Et on va dire, c'est ce manager qui ne va pas ou c'est ce collaborateur qui ne va pas. Non, ce n'est pas ça. Le sujet, ce n'est pas ça. C'est que les gens n'ont pas forcément compris la stratégie, donc ils n'y adhèrent pas parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'on leur a bien communiqué. Nous, on pose ce diagnostic. Les raisons du mal-être, si vous voulez, quand il y a du mal-être, elles peuvent être très, très diverses. Je ne parle pas de cas pathologiques, de harcèlement, etc.
Tout à fait, bien sûr. Là-dessus.
Ce n'est pas du tout mon sujet.
Mm-hmm,
voilà.
Mm-hmm.
Mais heureusement que c'est trop souvent fréquent, mais très rare.
D'accord. Vous êtes un médecin, en fait. Vous êtes un médecin au chevet de l'entreprise.
Non, je ne suis pas médecin.
Vous restez avec nous. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Et seconde partie du goût d'entreprendre, nous sommes avec Stéphane Valère de la société Blixo, start-up spécialisée dans l'évaluation du bien-être au travail. Bonjour Jean-Marc Fontaine, vous faire partie de notre équipe de référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Bienvenue Jean-Marc.
Merci.
Et première question à notre invité.
Bonjour Doris, bonjour Stéphane. Alors, nous avons déjà évoqué beaucoup de sujets. Nous avons compris que le bien-être au travail, c'est le résultat d'un nombre important de facteurs. En parcourant votre site internet, j'ai noté les mots bien-être, engagement, implication. Qu'est-ce qu'on adresse exactement en utilisant les données générées par Blixo ?
C'est-à-dire que...
Est-ce que c'est l'implication ? Est-ce que c'est l'engagement ? Est-ce que c'est... Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, on va dire, on a repéré quelque chose qui est influent sur le bien-être ?
Déjà, en fait, tout ça, pour moi, c'est presque la même chose. Ça dépend de l'angle dans lequel on se pose. Les dirigeants, ils vont parler d'engagement. Je veux des équipes engagées. Un salarié, il va dire « je veux du bien-être » ou de la qualité du travail. On parle de la même chose, l'angle est différent. C'est très lié. C'est-à-dire que si je ne suis pas, si j'ai pas une bonne qualité de vie au travail, je suis pas bien dans mon travail et je suis pas engagé. C'est très. Alors, évidemment, tout ça c'est segmenté. On peut. Mais pour moi, c'est le même sujet. Et l'idée de Blixo, je reprends un peu la présentation. On n'est pas là pour évaluer le bien-être au travail. C'est pas exactement ça. On est plutôt là pour. J'aime bien cette expression de créer un cercle vertueux qui fait que tout le monde est gagnant. Les salariés vont être mieux dans leur travail, les équipes seront plus engagées et plus simples à manager pour les managers, et l'entreprise, les dirigeants gagneront plus d'argent, enfin, auront des entreprises plus rentables, c'est lié.
Que font certaines entreprises pour aider les salariés à se sentir bien? Est-ce que, par exemple, les espaces de détente, ça fonctionne, le team building? On voit que, notamment, je voyais cet exemple-là il y a quelques semaines à Paris, en région parisienne, il y a une start-up qui propose aux salariés de s'occuper de ruches. Est-ce que tout ça, ce sont des choses qui peuvent influencer notre vision de l'entreprise?
Oui, c'est un tout. Mais si on s'occupe de ruches ou si on a des beaux locaux... dans une entreprise où les gens n'ont aucune autonomie ou comprennent rien au sens de leur travail, c'est pas ça qui va...
On peut pas cacher, en fait, ce qui va pas, pour faire simple.
Non, bien sûr. Mmh. Et ce qu'il faut, c'est justement avoir un bon outil de diagnostic RH qui permet de savoir où agir.
Jean-Marc.
Alors, vous avez parlé de poser un diagnostic à partir de réponses à un certain nombre de questions. Comment ont été élaborées ces questions? Est-ce qu'il y a eu l'implication de sociologues, de psychologues pour élaborer le contenu de ces questions?
Bon, il y a 20 ans de publication sur le sujet. Toutes les grandes universités ont travaillé sur la notion d'engagement, comment évaluer l'engagement. Tous les grands cabinets internationaux ont travaillé dessus. Donc, il y a pléthore de travail. Donc déjà, nous, on s'est basé sur ces publis. Moi, ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier. Et on a constitué effectivement une équipe pluridisciplinaire avec des coachs, des psychologues, des ergonomes, des consultants, des utilisateurs, donc des RH, des salariés, des managers. Enfin, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on a pu constituer ce moteur de questionnement. Parce qu'en fait, on a un moteur de questionnement où toutes les questions sont imbriquées les unes les autres. Et elles s'expliquent, elles se complètent les unes les autres.
Jean-Marc, une autre question.
Oui, vous parlez de... J'ai lu dans votre site que vous qualifiez Blixo d'outil de médiation.
Oui. Hein?
Alors, avec l'introduction d'un tel outil, ne risque-t-on pas de créer une espèce de faire-valoir pour le manager qui se retranche un petit peu derrière son dashboard,
son
comme
bureau.
Un peu on l'a vu avec la finance, hein, où à un moment donné, on avait des tableaux. Et est-ce qu'on risque pas de perdre un peu de proximité entre le manager et ses équipes? Finalement, les problèmes, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un tableau de chiffres pour aborder et résoudre les problèmes.
Ah ben, je pense exactement le contraire. C'est vraiment un outil de régulation, et je vous remercie de me servir ça sur un plateau pour poser cette question. Parce que finalement, ce n'est pas si évident pour un manager de parler de ces sujets-là et de les décortiquer si finement, parce qu'il n'a pas forcément la compétence, et ce n'est pas forcément évident pour un manager, d'ailleurs les managers sont souvent managers aussi, pour un manager de pouvoir dire les choses à son manager, parce qu'il se passe plein de choses, il y a beaucoup de biais dans cette relation hiérarchique. Et là, finalement, c'est un outil de médiation, c'est-à-dire que les gens parlent dans toute sincérité à Blixo, puisqu'on est tiers de confiance, nous on restitue de l'information anonymée, agrégée, travaillée au manager, qu'il peut très aisément partager parce que finalement elle vient d'un tiers. Et donc c'est un terrain de discussion idéal. On n'est pas dans tu dis cela, ou, parce que de toute façon c'est pas nominatif, hein, mais on ne dit pas tu dis cela ou tu penses cela. C'est voilà la photographie qui est faite de notre équipe.
Il faut que le manager puisse l'entendre aussi.
Oui, c'est vrai, effectivement. Et mais oui. Vous avez tout à fait raison. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que. Pour ces tableaux, en fait, chaque dimension est expliquée au manager. On lui explique dans le tableau qu'on lui donne, sur cette plateforme, on explique en quoi, finalement, le sentiment d'autonomie influence l'engagement, en quoi la compréhension de la stratégie influence l'engagement, en quoi le temps qu'il consacre à ses équipes pour faire du feedback, des retours, impacte leur bien-être.
Jean-Marc, une autre question.
Oui. Est-ce que vous avez le recul nécessaire maintenant pour noter une évolution positive justement dans les pratiques managériales des entreprises qui utilisent cet outil?
Alors,
est-ce que ça a changé leur vie, pour faire simple, hein? C'est ça, voilà. Un peu votre question, oui.
Oui.
Et celle des salariés?
Oui. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le propos de Blixo, c'est pas forcément de lancer des grandes actions. Et si c'était le propos, l'idée, c'était de lancer des grandes actions, on n'aurait pas le recul nécessaire. Justement, et ça, c'est, les grandes actions, c'est plutôt le baromètre social, asocial, annuel, voilà, plutôt ça. Nous, c'est pas ça, c'est, si vous voulez, c'est une espèce d'information continue, comme finalement, je reprends cette idée du médecin qui, chaque soir, repasse dans la chambre et finalement regarde plutôt l'évolution plutôt que le chiffre en lui-même de tous ces indicateurs. Comme en fait les managers et les collaborateurs, parce que les managers partagent ça avec leurs équipes, ont ces informations au fil de l'eau, enfin toutes les semaines, toutes les 15 jours, ils ne lancent pas des grandes actions, ils ont l'information. Et comme ils ont l'information, automatiquement, parce que ce sont des humains pensants, des bêtes pensantes, leur façon de voir les choses, leur façon de communiquer aux autres, leur posture évolue. Et c'est ça qui fait changer le système, parce qu'on est vraiment dans un système en fait. On ne peut pas ne pas communiquer. Comme j'ai cette information, je communique différemment et il se passe des choses différentes et ça évolue dans le bon sens.
Stéphane, on va revenir sur vous. Chef d'entreprise, une cinquantaine d'années, on peut le dire.
Oui, non, dans deux mois.
C'est pas grave. Hein.
Oui, tout à fait.
Vous avez fait un tour du monde en solitaire. Vous étiez déjà chef d'entreprise.
Non.
Vous nous le disiez à l'époque, oui, lorsque vous avez fait ce tour du monde. Vous étiez dans quel secteur d'activité auparavant? Si on a bien compris, toujours les RH, toujours l'accompagnement, l'encadrement?
Alors en fait, j'ai créé une première entreprise en 99 qui est spécialisée dans le coaching individuel et collectif, la formation justement des managers et des collaborateurs à bien travailler ensemble, mieux que travailler ensemble, qui est aujourd'hui un cabinet qui compte en France, qui s'appelle Meltis. Et ça, c'était en 99, hein, mais effectivement, en 93, j'étais parti un an, sac au dos, nez au vent, cheveux longs, autour du monde.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté sur un plan professionnel ?
Voilà.
Ah là.
J'ai pas préparé celle-là. Je sais pas.
Savoir réagir vite, vous adapter à toutes sortes de situations.
Non, au contraire, prendre de la distance, devenir un peu fataliste finalement, ce qui doit arriver arrive et il y a toujours une solution. Quoi. Je sais pas où dormir ce soir, mais je sais que je mourrai pas et demain matin je me réveillerai, donc j'aurai bien dormi quelque part, donc il y aura certaines philosophies sans doute.
Certaines philosophies, oui, tout à fait. Jean-Marc, une autre question.
Une question concernant votre entreprise. Mmh. La réussite de votre entreprise, présente ou future, comment vous pourriez la définir? Une entreprise qui réussit,
votre entreprise,
c'est quoi?
Ouais, c'est très intéressant comme question. Bah, y a plein de critères pour ça. Si je commence par moi, je suis désolé, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Moi, ce serait atteindre les objectifs que je me fixe. Donc là, c'est une start-up, je lui donne une ambition au moins européenne, c'est arriver à ces fins-là. Ça, c'est un critère, mais un autre critère, ça serait d'avoir de très nombreux clients et de voir que finalement, bien savoir comme cet outil fonctionne, qu'on améliore la qualité de vie au travail de dizaines de milliers, de millions peut-être même de salariés, et le plaisir de chefs d'entreprise dont le boulot est de développer leur entreprise, de voir que grâce à ça, l'entreprise se développe, c'est aussi un autre critère. Un autre critère, ça serait de créer des emplois. Là, j'ai commencé tout seul, on est 6 déjà, voilà, et je pense que dans un an, on sera plutôt une vingtaine, c'est un autre critère. Enfin, un autre critère, ça serait de travailler beaucoup, mais de quand même pouvoir avoir tout le temps nécessaire pour m'occuper de mes gamins et faire autre chose à côté. Enfin, oui, c'est ça, c'est la question, elle est énorme,
c'est une question à tiroir, c'est ça. Ouais, alors, être bien au boulot, Stéphane, ça veut dire aussi savoir concilier, puisque vous en parlez, vie professionnelle et vie privée.
Oui, d'ailleurs, on interroge les collaborateurs là-dessus.
Il y a des questions.
Parce que c'est un levier, c'est un vrai levier.
C'est un vrai levier, ouais, tout à fait. Mmh. Et quelles sont les réponses qui viennent le plus souvent sur cette thématique? Qu'est-ce que veulent les salariés? Travailler plus, travailler moins? Passer plus de temps
Ça, je crois que c'est... Il y a autant de réponses que de salariés, je peux pas... Je suis pas là pour faire des... Mon travail, c'est pas de faire une étude sociologique et ça serait... je serais usurpateur si je faisais ça, de tirer des conclusions méta de tous les gens qu'on interroge.
Vous avez quand même bien une petite perception. Et puis, comme vous disiez, ça fait quelques années que vous êtes dans le métier, donc vous avez vu évoluer les choses.
Ma sensation, mais elle n'engage que moi et je suis vraiment pas sociologue, donc c'est que les gens ont plutôt envie, j'ai l'impression, d'avoir, d'équilibrer leur vie personnelle et leur vie professionnelle, mais qu'en même temps, les deux sont de plus en plus perméables.
C'est
donc c'est un paradoxe qui est sans doute un peu compliqué à gérer pour beaucoup.
Jean-Marc.
Une dernière question peut-être. Est-ce qu'il y a un effet générationnel ? Est-ce que vous avez noté effectivement des différences en termes d'attente ?
Oui.
De
alors,
bien-être
en fait,
au travail.
En fait, effectivement, le Blixo répond à un besoin qu'ont les gens qui travaillent de maintenant donner leur avis. Donner leur avis, impacter le système, peser sur ce système, peser sur la qualité de travail, peser sur l'état d'entreprise. Nous, on n'a pas été habitués à ça. Moi, j'ai commencé à travailler dans les années 90, c'était pas du tout ça. C'était, tu viens très tôt, tu pars très tard, et puis tu fais le boulot qu'on te demande.
Et tu poses pas de questions.
Oui, et c'était les valeurs, et finalement, quand nous donnait ça, c'est ce qui nous rendait heureux. Il faut vous dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, les choses ont changé, et depuis une dizaine d'années, on a les générations X, Y et les millenniums qui débarquent dans l'entreprise par millions, et qui, eux, ont d'autres aspirations, et qui ont une aspiration de pouvoir... s'exprimer, parler, ce qu'on appelle le jargon, le bottom-up, que ça aille du bas vers le haut et non plus descendant, ascendant, voilà, montant, plutôt que descendant de la tête de l'entreprise. Et donc, en fait, ça, nous, on permet l'accélération. Vous savez, on parle beaucoup de la transformation digitale des entreprises. Mmh. Nous, on permet ça. C'est-à-dire qu'au finalement, les entreprises, il y a encore des entreprises qui essayent de construire des remparts autour de ça et d'être très descendantes. Ça, c'est mort. Ça n'existe plus.
C'est
fini.
Ouais, c'est le modèle
donc, les entreprises qui sont effectivement sur des tranches d'âge, des populations qui sont au-delà de 40 ans, peuvent maintenir ces remparts face à un océan à mon avis, très sain, chacun puisse s'exprimer et que l'information aille dans les deux sens. Mais nous, au contraire, ce qu'on dit, c'est non, de toute façon, vous ne pourrez pas éviter d'embaucher des jeunes. Ça fait 10 ans que vous le faites. Donc, il faut accélérer ça et permettre que ça fonctionne parce que c'est d'une richesse extraordinaire. Nous, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais Blixo, ce que ça permet d'effacer les distances hiérarchiques et géographiques. C'est génial pour un dirigeant de pouvoir avoir de l'information non filtrée, non biaisée, non déformée de personnes
de collaborateurs qui se trouvent
loin de lui parce qu'il c'est les L-2, les L-3, les L-4 ou loin de lui parce qu'ils sont à l'autre bout du monde.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Merci à
vous d'avoir été notre invité. Merci Jean-Marc. On rappelle l'adresse de votre site internet.
www.blixo.com.
Merci Stéphane Vallard. Merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple. Écrivez-nous, appelez-nous, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.